Bonjour et bienvenue dans l'émission Un jour un chiour. Vous êtes en compagnie de Philippe Helbet et nous parlerons d'un sujet qui nous a toujours interpellés et qui est celui, le sens des puits dans la Torah. Il est écrit dans la Torah. Or, Abraham avait fait des reproches à Avimelech au sujet d'un puits dont les gens d'Avimelech s'étaient emparés. « Qui rafarti et taber azot ?»« C'est que tu dois recevoir de ma main cette brebis comme témoignage que j'ai creusé ce puits. » Quel est l'intérêt de la Torah ? De nous signaler la difficulté qu'a Abraham d'avoir de l'eau et en quoi ce serait un enseignement pour les générations futures. Alken karalamakomo Be'er Sheva. Aussi appela-t-on cet endroit Be'er Sheva. Donner un nom à une chose, c'est affirmer qu'elle existe. Qu'est-ce qui existe et quel est le symbole du puits? Juste après la naissance de Yitzhak et la confirmation d'une descendance qui perpétuera la avoda d'Abraham, le chesed intelligent, Abraham décide de creuser un puits. Le chiffre 7 fait référence aux 7 midot, Be'er Sheva, c'est-à-dire qu'après avoir clarifié la mida de chesed à l'intérieur des 7 sphirot, Abraham veut creuser un puits qu'il lèguera à ses descendants pour l'éternité. Si Abraham a eu besoin de le creuser, de faire des efforts gigantesques pour clarifier sa mida de chesed, notamment avec les 10 épreuves, désormais, il peut le transmettre en héritage sans que ses descendants aient besoin de se clarifier autant. Le puits symbolise donc le canal qui nous permet d'accéder à l'eau, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme de recevoir les flux de Dieu, le déversement de la bénédiction d'Hachem, sans avoir à recommencer le travail depuis le début. C'est-à-dire que le travail qu'avait dû faire Abraham pour mériter cette relation avec Dieu, eh bien maintenant, il est acquis pour toujours. Le puits est bien là. Il ne reste plus qu'à montrer notre désir d'étancher notre soif d'amour de Dieu. Nous avons déjà expliqué le sens de la confrontation entre Avimelech et les deux patriarches. Avimelech est un homme qui se prétend très religieux. Il cherche à se comporter selon les voies de ce qu'il croit être la droiture. Il y a chez lui une certaine rigueur qui le place largement au-dessus des idolâtres. C'est pourquoi nos deux patriarches doivent se clarifier chez lui par rapport à la démarche spirituelle d'Avimelech. Abraham vis-à-vis du chesed et Yitzhak plus tard vis-à-vis du din. Une fois la clarification faite, Abraham peut entériner sa démarche comme une voie spirituelle pour ses enfants, sans qu'il soit obligé d'être au même niveau d'Abraham. On retrouvera ce même schéma pour Yitzhak. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Évidemment, pour masquer leur imposture, stimum pilishtim, les Philistins doivent impérativement reboucher les puits et rendre caduque la démarche d'Abraham. Yitzhak s'est remis à creuser les puits qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Avant d'en construire d'autres, Yitzhak réhabilite la démarche de son père, puis à son tour doit se clarifier sur la Midat Hadin avant d'en faire un schéma pour toutes les générations suivantes. Vayarperu avdei Yitzhak ben Nahal, vayamseu sham be'er mayim chayim. Les serviteurs d'Yitzhak, en creusant dans la vallée, y découvrirent une source d'eau vive. Yitzhak va encore plus loin que son père. D'emblée, il obtient be'er mayim chayim, un puits d'eau vivifiante. Et c'est normal, car s'appuyant sur l'engagement extraordinaire d'Abraham, son père, Yitzhak, grâce à sa Midat Hadin, va améliorer encore plus la qualité de l'eau que l'on pourra y trouver. Et tout cela sera servi gratuitement sur un plateau à ses descendants, le peuple juif, pourvu qu'il exprime sa soif de paroles divines, son envie d'entendre Dieu exprimer sa volonté. Vayahal Misham Be'er Shava peut se lire autrement. De l'endroit même où Abraham avait creusé ses puits, Misham, il fit monter le puits Be'er des sept midot clarifiées. C'est-à-dire que Yitzhak poursuivit le chemin dessiné par son père. Ainsi, à travers leur clarification sur le chesed et le din, Abraham et Yitzhak ont construit un passage entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, un puits qui permet la connexion entre Dieu et la terre, Be'er Shava, à travers Be'er Shava. Dès lors, chaque juif qui désire ardemment être abreuvé des paroles de la Torah, du langage de la vérité, pourra se présenter au Beit HaMidrash pour étancher sa soif de Dieu. Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, vayeler Harana. Yaakov sortit de Be'er Shava et se dirigea vers Haran. À partir de là, nous franchissons une nouvelle étape. Dit autrement, Yaakov quitte le confort de Be'er Shava, du puits de la connaissance permanente de Dieu, pour se diriger vers la folie de Haran, du monde des affaires, où tout est injuste. Yaakov est saisi de peur d'entrer dans le monde du Safek, du mélange odieux entre le bien et le mal. Faire la distinction entre le vrai et le faux, cela reste encore abordable. Mais devoir distinguer en permanence le bien du mal du bien, est une chose abominable, car on ne sait jamais bien où mettre le curseur pour être à l'abri d'une tromperie et d'un piège. Au début, Yaakov croyait vivre tranquillement dans sa tente, mais en saisissant le droit d'aînesse de son frère, il récupère également ses obligations. Ce que Esav était censé accomplir dans sa vie, maintenant c'est à Yaakov de le faire, c'est-à-dire transformer les forces du monde extérieur en forces de la Torah. Mais, paradoxalement, c'est en acceptant de vivre ce combat qu'on ramènera le plus grand nombre d'étincelles divines dans ce monde. À travers le songe de l'échelle, Dieu cherche à rassurer Yaakov d'accepter de plonger dans les eaux tumultueuses des nations afin de proclamer la royauté de Dieu même dans les endroits les plus reculés. Oui, je suis avec toi, Vene Anoche Imar, je veillerai sur chacun de tes pas, Ushmarticha Brolacher Teler, et je te ramènerai dans cette contrée, Vashivoticha El Adama Azot, car je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. Yaakov se remit en chemin et alla vers la terre des enfants de l'Orient, c'est-à-dire en direction de chez Lavan. Il vit un puits dans les champs et là, trois troupeaux de menu bétail étaient couchés alentour, car ce puits servait à abreuver les troupeaux. Or, la pierre sur la margelle du puits était très grosse. Il est intéressant en soi que le premier contact que Yaakov a avec Haran se passe autour d'un puits qui se trouve dans un champ. À partir de Yaakov, il n'est plus nécessaire de creuser, car le travail a déjà été fait par les deux premiers patriarches. Il faudra simplement soulever la grosse pierre qui obstrue son entrée. La nouveauté, c'est que le puits se trouve dans le champ, c'est-à-dire en exil. Dieu avait déjà promis à Yaakov que sa Shekhina descendrait avec lui. Il fallait encore s'en être assuré. En sortant de Be'er Sheva pour aller à Haran, la première chose dont Yaakov doit être sûr, c'est que même en exil, ses descendants pourront toujours avoir accès à la connaissance de Dieu, au puits de l'eau vivifiante, Ma'im Chaim, celle qui nous protège des manipulations mensongères du monde de l'apparence. Et ceci doit être clairement acquis avant de constituer le peuple juif. Une fois que Yaakov, et donc le peuple juif, aura la certitude qu'il ne sera jamais coupé de sa source, c'est-à-dire des puits qu'avaient creusés Abraham et Yitzhak, il est possible alors de fabriquer ce peuple juif qui pérennisera le travail commencé par Abraham pour asseoir la royauté de Dieu sur terre. Certes, la pierre est lourde, mais en s'y prenant à plusieurs, ונאספו שמה כל העדיים וגללו את האבן, ודיל עקדת יצחק, en se soudant les uns aux autres, on peut révéler une force insoupçonnable qui soulèverait le cœur de pierre de chaque juif pour avoir accès aux eaux vivifiantes de la Torah. Alors, tout naturellement, et ça va de pair, Odenu medaber imam berachel ba'a imasod asher le'avia, le batzouk de Yaakov se présente à lui pour fonder le peuple juif. Grâce au Ruach HaKodesh qui sera présent parmi nous, du fait de notre unité et solidarité, nous pourrons nous abreuver aux sources du puits du Be'er Mayim Chayim, des eaux qui redonnent vie aux hommes. En tout cas, pour ceux qui le veulent bien. Comme il est écrit dans Yeshaya, « Vous qui avez soif, venez, voici de l'eau, celle de la Torah. » Il est écrit également dans les Tehillim, « Goûtez et sentez combien Dieu est bon. » Que signifie l'expression « goûter » ? Lorsque l'homme ne ressent pas le bonheur de vivre, sa vie n'a pas de goût. Et il lui est conseillé alors de goûter le goût de la Torah, car elle vivifie tout ce qu'elle touche. Il ressentira immédiatement les prémices d'un certain bonheur. De même, quiconque ressent un manque, cherche un goût à la vie, doit aller vers l'eau, vers la maison d'étude, là où se trouve la Torah. Il verra des rangées d'hommes plongés dans les paroles de la Torah et découvrira l'existence d'un autre bonheur que celui des affaires matérielles. Les puits des Avot symbolisent donc leur travail en profondeur, le chemin spécifique de chacun pour obtenir la manifestation de la présence divine dans le monde. Avraham Avinu, par le biais du Chesed, Yitzhak Avinu, par le biais de la Gvoura. Il est écrit dans Shira Shirim, Mayan Ganim Ber Mayim Chayim Venozim Min Lebanon, une source des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Lebanon. Chazal disent que la source qui alimente le puits, qui fait que les puits coulent en permanence, c'est Avraham Avinu lui-même. Le puits, c'est Yitzhak qui a rangé. Et quand les Philistins ont tenté de reboucher les puits, eh bien c'est Yitzhak qui est venu pour les arranger, les réparer, afin de rendre l'eau disponible à tout celui qui voudrait s'en abreuver. Quant à Yaakov, il se chargera d'en faire un puits, c'est-à-dire un flux continu d'eau vive. C'est exactement ce que l'on voit lorsque Yaakov rencontre Rachel au bord d'un puits. Il enlève à lui tout seul la pierre très lourde pour abreuver tous les troupeaux. C'est à ce moment-là seulement que l'eau coule à flot. Il n'est plus nécessaire de creuser. Les trois types de relations au puits étant établis, il est temps pour Yaakov de parfaire sa avoda en mettant au monde les 12 tribus. 130 ans plus tard, il y avait un homme de la famille de Lévi qui avait épousé une fille de Lévi, ce qui conduit à la naissance de Moshe. Celui-ci s'enfuit de devant Pharaon et s'arrêta dans le pays de Midian, Vayeshev à la mer, où il s'assit près d'un puits. Le puits réapparaît avec Moshe sur la terre de Midian. Moshe va avoir besoin de l'inspiration du puits pour mener à bien la mission qui l'attend. Le prêtre de Midian avait 7 filles, Shvabenot. Elles vinrent puiser là et emplir les auges pour abreuver les brebis de leur père. Il y a de la spiritualité dans l'air, faut-il encore s'en apercevoir. Des bergers sortirent et les repoussèrent. Moshe se leva, prit leur défense et abreuva leur bétail. Ici, il n'y a plus de pierre à enlever. Il suffit simplement de chasser les mauvaises personnes qui nous empêchent d'y accéder. C'est-à-dire qu'il suffit de retirer l'emprise de la clipa de Paro sur Israël pour que le peuple juif retrouve son envie de renouer avec Dieu. Les 10 plaies contribueront à libérer le peuple d'Israël de l'idolâtrie égyptienne. Moshe fit décamper Israël de la plage des joncs et ils débouchèrent dans le désert de Chour, où ils marchèrent 3 jours sans trouver d'eau. Moshe implora le Seigneur. Celui-ci indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. Voici comment il faudra comprendre cet épisode. qui sera une constante dans tout leur voyage. Quand ils traversent la mer des joncs, ils assistèrent à une révélation de Dieu, mais ce dévoilement s'estompa au bout du troisième jour. Israël ressentit alors un profond manque qui se traduit à l'extérieur par une révolte. Ils ont soif de paroles divines, de contemplation magique, de proximité avec Dieu, mais cela ne peut dépasser trois jours. Ils arrivèrent à Élim, là où étaient 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils y campèrent près des eaux. Ici nous est présentée la nécessité d'alimenter chaque tribu par sa propre source, surplombée par les enseignements des 70 anciens d'Israël, la plus haute autorité du peuple juif. Cela devra suffire à contenter les besoins quotidiens du peuple. Le peuple querela Moshé en disant « Donne-nous de l'eau, que nous puissions nous abreuver. » Moshé leur répondit « Pourquoi vous me cherchez querelle ?» Alors, pressé par la soif, le peuple murmura contre Moshé et dit « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mes troupeaux ?» Ici, on parle de la vision des 10 plaies qui furent à chaque fois un dévoilement de Dieu. Autrement dit, quand le peuple a soif, c'est toujours du dévoilement de Dieu. Les enfants d'Israël, toute la communauté, arrivèrent au désert de Sin dans le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadesh. Myriam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. Velo ayamayim la eda. Or, la communauté manqua d'eau. De là, nous apprenons que par le mérite de Myriam et depuis la sortie d'Égypte, un puits suivait la route du peuple juif. Mais à sa mort, il disparut, ce qui provoqua la colère du peuple. Par ailleurs, nous savons qu'en Égypte, Myriam avait joué un rôle crucial pour amener le désir, le réchec du peuple juif à Dieu. Si Abraham et Yitzhak doivent creuser pour faire apparaître de l'eau, si Yaakov doit soulever la pierre qui bouche le puits, si Moshé doit protéger l'existence du puits, Myriam, elle, doit entretenir le désir d'avoir soif, soif des paroles divines, soif de participer au projet d'Hachem. Enfin, une fois le schéma ancré dans le peuple juif, il ne reste plus qu'à voir si Israël est capable d'épancher sa soif de Torah à partir de sa propre source. Puis ils gagnèrent Béer, ce puits à propos duquel le Seigneur a dit à Moshé, « Assemble le peuple, je veux lui donner de l'eau. » C'est alors qu'Israël chanta ce cantique, « Jaillis, ô source, acclamez-la. » Ce puits, des princes l'ont creusé, les plus grands du peuple l'ont ouvert, avec le sceptre, avec leur verge. Pour Rashi, il s'agit de Moshé et Aaron, alors que pour le Targum Yonatan, Ben Uziel, il s'agit des trois patriarches. Israël accède à une certaine autonomie vis-à-vis de ses guides spirituels et doit pouvoir trouver en lui la source qui étanchera sa soif de la Torah, c'est-à-dire sa soif de se rapprocher jour après jour, mois après mois, année après année d'Akadosh Baruch Hu. Parfois, on a l'impression que les récits sur les puits sont anecdotiques, alors que se cache derrière ces récits un enjeu majeur, la création de voies spirituelles qui permettront au peuple juif d'avoir des couloirs pour s'engager dans leur vie spirituelle, dans l'étude de la Torah et finalement pour aller à la rencontre de notre Créateur. Je vous souhaite Rosh Chodesh Mevorach et Shabbat Shalom.